Vous écoutez
RMC.
Samedi 28 janvier, RMC 8h. Stéphane Jeunesse, Stéphanie Rock, bonjour.
Bonjour à tous.
Les trois titres.
Quatre adolescents envoyés devant la justice après le suicide du jeune Lucas au début du mois dans les Vosges. Et connaissez-vous les Robin des Bois, ces syndiqués qui mènent des opérations de gratuité pour lutter contre la réforme des retraites? On vous explique tout.
Les handballeurs français qualifiés pour la finale du mondial, ils ont battu les Suédois 31-26. Prochaine étape, le Danemark pour espérer soulever un septième titre mondial.
La matinale week-end.
Il y aura donc un procès pour les harceleurs de Lucas, cet adolescent qui s'est suicidé début janvier.
C'était il y a 3 semaines, ce jeune collégien qui avait mis fin à ses jours car victime de harcèlement dans son collège en raison de son homosexualité. Eh bien, 4 mineurs vont être jugés pour ces faits précis qui auraient entraîné le suicide de l'adolescent Mao Becker-Granier.
Ils seront 4 à se présenter devant un juge des enfants, 2 filles et 2 garçons de 13 ans, le même âge que Lucas. Ces collégiens ont d'abord été placés en garde à vue en milieu de semaine. Au cours des auditions, ils ont admis s'être moqués à plusieurs reprises de leurs camarades depuis la dernière rentrée. Pour ses proches, ce harcèlement était directement lié à l'homosexualité de Lucas. Depuis le décès du jeune homme, les 4 adolescents sont tenus de ne pas se présenter au collège, notamment pour des raisons de sécurité. Ils ont à leur tour étaient pris pour cible, victimes de menaces sur les réseaux sociaux. Le procureur d'Épinal a aussi ouvert une enquête contre X pour non-dénonciation de mauvais traitements sur mineurs. Des investigations se poursuivent sur ce dossier-là. Après le suicide de Lucas, la première ministre Elisabeth Borne avait promis un nouveau plan de lutte contre les discriminations. Il sera présenté lundi.
Explication de Mao Becker-Granier pour RMC. Par ailleurs, une marche blanche en mémoire de Lucas se tiendra dimanche prochain, le 5 février à Épinal.
Juste après ce journal, notre invité Hugo Martinez, président de l'association Hugo Harcèlement Scolaire, qui lutte contre ce phénomène de harcèlement scolaire et qui se battait pour faire condamner les harceleurs. C'est l'information de la nuit. Bruno Garcia condamné en appel à la perpétuité pour l'assassinat de son ex-compagne Julie Douib.
Prison à vie assortie d'une peine de sûreté de 22 ans et comme en première instance, il a également été déchu de son autorité parentale sur ses 2 enfants. Le père de Julie Douib, Lucien, est soulagé, mais pour autant son combat contre les violences faites aux femmes continue.
Il n'est pas question que j'arrête. Bon, de toute façon, c'est un combat que je mène depuis la mort de Julie. Et c'est pas parce que la justice a reconnu que lui était dangereux que les autres sont pas dangereux. Ça sera le même combat de toute façon. Ça c'est clair. Après, je ne sais pas comment je vais me battre, mais bien sûr que je vais continuer.
Et puis en bref, Raphaël Dupond-Moretti, le fils du garde des Sceaux, placé en garde à vue hier, soupçonné de violence conjugale. Éric Dupond-Moretti a réagi, il se dit dévasté en tant que père. Fin de citation.
RMC 8h03, aux États-Unis, des images qui bouleversent, celle de l'arrestation mortelle d'un Afro-Américain par la police.
Des images qui laissent peu de place au doute, elles montrent les violences infligées durant de longs instants par 5 policiers à Tyre Nichols lors d'un banal contrôle routier à Memphis. L'homme de 29 ans a été tué, vidéo explosive, donc un rendu public qui a poussé Joe Biden à réagir. Il se dit choqué, meurtri par ces images. Joe Biden, qui a également appelé le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou cette nuit, lui a apporté son soutien après une attaque qui a visé une synagogue à Jérusalem-Est hier soir. Attaque qui a fait 7 morts, également condamnée par Paris.
La réforme des retraites, J-3 avant la nouvelle journée de mobilisation.
En attendant, les Robin des Bois de l'énergie, c'est leur nom, mènent des opérations gratuites d'électricité ou de gaz un peu partout en France, du logement social à l'hôpital en passant par le petit commerce. Il s'agit de membres de la CGT, Mines Énergie. Son secrétaire fédéral Fabrice Coudour assume ses actions.
Le peuple aujourd'hui, les travailleurs, ils n'en veulent pas de cette réforme. Donc nous, notre but, c'est d'avoir des actions légitimes et morales en montrant qu'on se bat pour l'intérêt général qui est pour le coup et plutôt de notre côté. Donc massivement, les Robin des Bois, ce qu'on a décidé de mettre en œuvre, c'est de la gratuité de l'énergie dans des hôpitaux, des cliniques par exemple. On fait la démonstration depuis quelques jours que dans l'énergie, on est capable du meilleur comme du plus dur. C'est plus une question de l'égalité ou de droit. On est en train d'intensifier le rapport de force. Il va falloir à un moment que le gouvernement, qu'il veuille ou qu'il veuille pas, qu'il entende le peuple pour qui il a été élu, quoi.
Et puis Stéphane, ce chiffre qui fait beaucoup réagir ce matin sur RMC, plus d'1 salarié sur 3 se dit prêt à travailler moins pour gagner moins.
Concrètement, Mathieu, baisser son salaire de 5% pour ne travailler que 4 jours par semaine, étude révélée par le groupe Manpower, un rythme qui permet un meilleur équilibre entre vie pro et perso, Léna Marjac.
C'est une décision prise en octobre dernier.
Je pense qu'effectivement, on ne reviendra pas en arrière.
Il aura fallu un an de réflexion à Morgane Tognarini, gérant de la société de menuiserie Sénave à Roncq, dans le Nord.
Les salariés font un peu plus d'heures tous les jours. 1h30 de plus par jour, en soi, ce n'est pas énorme. Surtout quand on a une journée complète de repos en plus.
Chez Welcome to the Jungle, entreprise de recrutement en ligne à Paris, la semaine de 4 jours a été adoptée en 2019.
On voulait créer du temps pour nos collaborateurs toutes les semaines.
Mais lors de sa mise en place, quelques salariés se sont inquiétés, explique Noëlla Gavier, la DRH.
Un peu le stress de dire, mais comment ma semaine de 5 jours qui est déjà bien occupée, je vais réussir à la compacter en 4 jours. C'est la méthode, l'organisation.
Avoir plus de temps pour elle, c'est ce qui a séduit Leslie Malem, jeune maman, et chargée du recrutement depuis 3 mois.
J'étais tiraillée entre l'envie d'avoir un quotidien professionnel challengeant et en même temps, j'avais envie de passer plus de temps avec mon fils. La semaine de 4 jours me permet d'améliorer considérablement mon équilibre vie pro-vie perso.
Dans cette société, 93% des salariés sont satisfaits de ce mode de travail.
RMC 8h06. Et les revoilà, Stéphanie Rock, les revoilà 6 ans après, nos handballeurs français qualifiés pour la finale du mondial.
Il y a eu, souvenez-vous, les Barjots, les Costauds, puis les Experts. Il va falloir d'ailleurs leur trouver un nouveau surnom à cette formidable équipe de France qui s'est qualifiée hier en battant les Suédois chez eux, à Stockholm. Victoire 31-26, Luka Karabatic, le capitaine, analysait la victoire avec lucidité.
On a mené du début à la fin, on ne pensait pas s'en tirer aussi bien, entre guillemets. Ça a été un super match de notre part. Il fallait ça pour passer cet obstacle suédois. Ils avaient un grand public derrière eux, mais aussi beaucoup de pression sur les épaules. Et nous, on a réussi à faire en sorte que ce soit un avantage pour nous et peut-être un petit désavantage pour eux. Félicitations aux gars et à cette équipe, parce que voilà, c'était un grand défi qu'on a réussi à relever.
Grand défi, et le prochain sera danois face au double tenant du titre. Match à vivre demain en direct sur RMC dès 21h.
Et on ne va pas se priver de cette finale. Des finales, il y en a aussi à l'Open d'Australie. Tout au long du week-end, ça commence dès ce matin.
Avec la finale dames qui va opposer Arina Sabalenka, 5e mondiale, à Elena Rybakina, 25e au classement WTA. Match à suivre dès 9h30. Demain, ce sera au tour des hommes. Novak Djokovic face à Stefanos Tsitsipas. Djokovic qui a encore fait parler de lui. Djokovic perd, plus précisément. Vendredi, il a été pris en photo avec des supporters russes pro-Poutine. Des images qui ont rapidement tourné sur les réseaux sociaux. Un début de polémique qu'a tenté d'éteindre le père du joueur par communiqué. Il avait pris la décision de ne pas se rendre sur les cours pour encourager son fils. Novak Djokovic a réagi hier en conférence de presse.
Mon père, toute ma famille et moi-même avons traversé plusieurs guerres dans les années 90. Nous sommes contre la guerre. Nous savons à quel point c'est dévastateur pour la famille, pour les gens dans n'importe quel pays qui traversent la guerre. Il y avait beaucoup de drapeaux serbes autour. C'est ce qu'il a pensé. Il pensait qu'il faisait une photo avec quelqu'un de Serbie. Et c'est tout. Et puis, il est passé à autre chose.
Pour revenir au tennis, on retrouvera notre envoyé spécial depuis Melbourne, Eric Salio, dans notre édition de 8h30. Et puis en bref, un mot de football, début de la 20e journée et une victoire de Lorient 2-1 face à Rennes. Cet après-midi, Lens se déplace à 3. Marseille recevra Monaco, coup d'envoi 21h sur RMC.
Merci beaucoup Stéphanie Rock. 8h08, l'heure de jouer Peggy.
Et il y a un super cadeau encore cette semaine. Dans le 10 minutes chrono, on vous offre une semaine les pieds dans l'eau, c'est pas mal ça, avec les croisières, le boat. Vous allez pouvoir naviguer sur les quais ou les rivières de France et passer de super vacances. Donc voilà ce qu'il y a à gagner aujourd'hui pour 4 personnes. C'est très simple, il suffit pour jouer avec nous de nous appeler 3216, la touche 4, ou vous envoyez le mot matin par SMS au 73216. Matin au 73216.
Allez, bonne chance à tous.
À suivre dans la matinale week-end.
Cette première en France, 4 adolescents de 13 ans seront jugés pour harcèlement scolaire. Ils ont reconnu être à l'origine des moqueries sur l'homosexualité de Lucas, dont le suicide début janvier a ému toute la France. Notre invité, Hugo Martinez, se bat depuis des années pour faire condamner le harcèlement scolaire. Il est avec nous dans 2 minutes sur RMC.
RMC, 6h-9h, la matinale week-end.
Mathieu Rouault. Bienvenue sur RMC. C'est donc une première en France. 4 adolescents, 2 garçons, 2 filles, 13 ans, seront jugés pour harcèlement scolaire. Annonce du procureur de la République hier. Nous sommes 3 semaines après le suicide qui a ému la France entière, le suicide de Lucas dans les Vosges, moqué pour son homosexualité. Bonjour Hugo Martinez.
Bonjour.
Vous-même, ancienne victime de harcèlement scolaire, vous présidez aujourd'hui l'association Hugo, qui se bat depuis des années pour faire condamner ces actes. Cette décision d'envoyer ces quatre ados devant le juge des enfants s'appuie sur une loi qui a été adoptée il y a moins d'un an et qui fait désormais du harcèlement scolaire un délit. C'est donc la première fois qu'elle sera concrètement mise en œuvre.
Oui, c'est une loi sur laquelle... pour laquelle je me suis engagé pendant près de 5 ans avec l'association Hugo et ses équipes. Et d'ailleurs, envers et contre tous, parce que personne n'y voyait d'intérêt. Et là, on le voit bien, on voit l'intérêt concret et terrain d'une telle avancée, parce que cette loi a eu plusieurs avancées, on pourrait y revenir, mais notamment en effet la création de ce délit de harcèlement scolaire. Il faut rappeler le contexte, c'est que jusqu'à présent, nous n'avions en fait qu'un seul mot générique valise, qui était le mot harcèlement, et qui sur lequel les experts souhaitaient s'appuyer pour parler de harcèlement entre adultes et de harcèlement scolaire. Sauf qu'en fait, dans la réalité des faits, on le sait bien, on n'a pas du tout les mêmes traitements, les mêmes situations dans les deux cas.
Et donc concrètement, cette loi, ce qu'elle change, c'est que il y a un an avant cette loi, ces ados qui ont reconnu être auteurs de ces moqueries contre l'homosexualité de Lucas auraient juste été entendus le temps de l'enquête, mais pas jugés.
Oui, parce qu'en fait, et le problème est le même quand une famille va au commissariat ou à la gendarmerie, c'est que le problème, c'est qu'on ne retrouve pas de cadre juridique qui ressemble au harcèlement scolaire. Et donc, on se retrouve à faire des espèces d'accumulation, on va additionner plusieurs délits, donc ça peut être incitation au suicide, ça peut être provocation à la haine, par exemple, etc., etc. Mais en fait, on se retrouve avec des dossiers juridiques caduques finalement et qui du coup n'aboutissent pas. Et donc en effet on a du mal à chaque fois, on voit dans la situation, on voit ce qui s'est passé par exemple pour l'affaire de Dina, ou alors la particularité de l'affaire de Dina c'est que c'est elle qui a permis de réveiller la classe politique sur le sujet et d'aboutir après à ce délit, mais malheureusement l'affaire ayant été ouverte avant la création du délit, le délit en lui-même ne peut pas être utilisé et on voit bien que la justice est en difficulté parce qu'elle n'a pas la capacité d'utiliser ce délit.
Vous dites il y a un intérêt. On voit bien l'intérêt de qualifier d'un point de vue juridique ces actes. Mais quel est l'intérêt pour les auteurs? Parce que la question que tout le monde se pose, ces ados ont 13 ans, comme la victime. Comment juger des ados de 13 ans? Comment juger, évaluer leur implication dans les faits qui ont conduit au suicide de leurs camarades?
Alors, ce qu'il faut rappeler avant toute chose, c'est que là, on parle de mineurs. Et donc, dans le cadre donc, d'auteurs de faits potentiels mineurs, on est dans la justice pour mineurs. Et donc, c'est un procédé qui n'est pas le même de la justice traditionnelle que nous avons habituellement. Ce sont donc des juges spécialisés, des juges pour mineurs, et pour lesquels la sanction, la peine qu'ils vont prononcer, d'ailleurs, est à leur discrétion et reste beaucoup plus confidentielle, si j'ose dire.
Ce que prévoit la loi, tout de même, jusqu'à 10 ans de prison et 150 000 euros d'amende.
Alors ça, la loi, et ça, je m'adresse à l'ensemble des auditeurs ce matin, parce qu'il faut ne pas tomber dans la démagogie. Il faut savoir que quand on est dans la création d'un délit, quand on crée un délit en France, on a en face une sanction qui est affichée, qui est financière ou de prison, parce que c'est ce qu'on appelle l'échelle des peines. C'est pour classifier toutes les peines. Donc on est obligé de passer par là dans la loi textuelle. Dans la réalité des faits, il n'y a pas, ou en tout cas il n'y a que très peu de chances, une infime chance que des enfants subissent ces peines-là. Dans la réalité, puisqu'on est donc, comme je le disais, sur un juge pour mineur, on va être sur des sanctions, des peines constructive. On va essayer d'amener en fait l'auteur à peut-être passer du camp initialement des auteurs vers des ambassadeurs de la lutte contre le harcèlement scolaire, ou tout du moins en tout cas comprendre pourquoi il est arrivé jusque là. D'ailleurs, la loi elle-même que nous avons défendue crée une nouvelle peine qui est un stage de sensibilisation au harcèlement scolaire. Et c'est intéressant.
Cette loi concerne les élèves, mais aussi les personnels de l'éducation et, en l'espèce, le collège. Est-ce qu'il faut que les personnels de ce collège soient également poursuivis ?
Il faut, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans toute situation de harcèlement scolaire, il y a des adultes défaillants. Et donc, il faut établir la chaîne de responsabilité, c'est-à-dire remonter qui a pu être témoin de scènes de harcèlement scolaire, qui a pu finalement manquer un moment dans la remontée d'informations, parce que c'est ça aussi Le harcèlement scolaire, c'est un moment qu'il y a des, il y a un manque de remontée d'informations et de collecte.
Mais on a l'impression d'une montagne, Hugo Martinez, parce que ce collège faisait partie d'un dispositif qui justement vise à lutter contre le harcèlement scolaire. Il y a cette application qui a été mise en place sur les téléphones, qui visiblement n'est encore pas suffisante. Comment lutter encore mieux ?
Mais justement, c'est que le harcèlement scolaire était impuni, monsieur, en France. Il était impuni jusqu'à il y a encore un an. Et là, cette affaire, elle doit... La disparition de Lucas doit, comme toutes les disparitions d'enfants, servir à l'utilité publique aussi. Et je crois, malheureusement, il aura fallu qu'on une situation arrive jusque-là. J'espère que ça fasse une prise de conscience et qu'on puisse entendre qu'en France, le harcèlement scolaire n'est plus impuni.
Avec des sanctions exemplaires.
Adultes comme enfants, ça ne restera pas impuni.
Après ce suicide de Lucas, justement, la Première ministre Elisabeth Borne a promis un nouveau plan de lutte contre les discriminations. Il sera présenté lundi, dans deux jours. Vous en attendez quoi ?
Alors moi, ce que je souhaite, c'est qu'on ne fasse pas d'amalgame. Le harcèlement scolaire ne se limite pas à l'homophobie. Bien évidemment, c'est l'une des principales raisons. Et il faut lutter contre l'homophobie. Mais moi, je crois qu'il faut élargir. Je vois que la classe politique là focalise sur ce sujet-là parce que, en effet, Lucas a été victime d'actes homophobes. Il faut élargir à toutes les formes de discrimination et toutes les raisons de discrimination. On l'a vu pendant le Covid. On va jusqu'à des discriminations sur la couleur du masque que portaient les élèves parfois. Donc, il faut surtout ne pas faire d'amalgame sur ce sujet-là. Moi, je le redis, pareil, sur la question du cyberharcèlement, il ne faut pas dissocier le cyberharcèlement du harcèlement scolaire. C'est un tout. Le cyberharcèlement est une forme de harcèlement scolaire. Nous, ce qu'on attend, en fait, très clairement, c'est aujourd'hui des moyens sur l'après. C'est-à-dire, on a des victimes, on le sait, on a des victimes et on aura beau mettre tous les moyens en œuvre de prévention, on aura toujours des victimes. Maintenant, ces victimes, il faut les prendre en charge. Et nous, l'association Hugo, on est comme des pompiers qui courront à éteindre les feux avec des petits seaux d'eau et des petits arrosoirs, parce que on a des centaines de millions de victimes, hein, je le rappelle, 1 million d'enfants victimes chaque année, et il n'y a pas un seul moyen aujourd'hui pérenne de financement de l'accompagnement thérapeutique de ces victimes. Pour les victimes elles-mêmes, ni pour leur entourage.
Hugo Martinez, président de l'association Hugo, merci de nous avoir réservé votre première réaction. Après cette information, première en France, 4 ados qui seront jugés pour harcèlement scolaire. Vous attendez, Hugo Martinez, des sanctions exemplaires. Il est 8h19.
À suivre dans la matinale week-end.
Les mariages sont de retour, Mathieu.
C'est vrai qu'on en a connu des annulations avec cette pandémie de Covid. Figurez-vous que ça repart, et ça repart fort. 300 000 cérémonies attendues cette année. Comment se préparent les professionnels du secteur ? C'est l'enquête RMC dans une minute.
RMC, la matinale week-end.
8h20, nous vous attendons ce matin. Futurs mariés, mais aussi professionnels du mariage. C'est le salon du mariage tout le week-end à Paris. Et pour cause, il va y avoir du boulot en 2023.
L'enquête RMC.
Bonjour Martin Cadoret.
Bonjour Mathieu.
C'est vrai que c'est tout un secteur en fait qui reprend espoir après les annulations dues au Covid. La preuve par ce chiffre de votre enquête, ce matin, 300 000 mariages attendus cette année, c'est tout simplement du jamais vu depuis 20 ans.
Et ce sera plus que 2022 avec ses 244 000 mariages célébrés. On n'avait pas vu ça depuis 10 ans. Tout ça, c'est la faute du Covid, Mathieu, hein, qui a fait chuter le nombre de cérémonies en 2020 et 2021. Beaucoup ont donc été reportés jusqu'à cette année. Après avoir reporté deux fois leur cérémonie en 2020, Jean-Baptiste et Marion ont décalé leur mariage à cet été. C'est le futur marié qui raconte.
On s'est dit, il y en a marre de redécaler, donc cette fois-ci on décale un bon coup une fois pour toutes. Puis on va pouvoir profiter de tout le monde, de la famille, des amis. En plus, on a pu choisir du coup une date en été puisqu'on avait pris, on s'est pris vachement à l'avance. Je connais deux couples qui ont cherché des dates depuis et les deux ont fait le choix de se marier en hiver justement parce qu'il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de salle.
Et oui, conséquence de cet embouteillage, la saison des mariages s'étire jusqu'à novembre-décembre. Certains couples prévoient même leur cérémonie le jeudi.
Ah oui, la preuve, beaucoup plus de mariages attendus cette année, mais avec un budget plus serré.
Oui, c'est ce que nous apprend une enquête publiée cette semaine. Le budget moyen des ménages baisse de 1200 euros et s'établit désormais à 9900 euros environ. Clément Tournier est le président de l'Union des professionnels solidaires de l'événementiel.
Les enveloppes ont baissé, l'inflation y est pour beaucoup. Et puis donc forcément l'augmentation des coûts pour les mariages. Alors on était plus sur la tendance d'avoir moins de personnes pour pouvoir garder quand même un événement voilà, qui a des prestations qui est à la hauteur de l'envie des mariés. Des fois, c'est plus simple de réduire un peu le nombre de personnes, ce qui au final réduit l'enveloppe globale. Par contre, ça réduit pas forcément le coût par personne.
On adapte parce que organiser un mariage en 2023, eh bien comme tout, ça coûte plus cher. Secteur lui aussi victime de l'inflation.
Voilà, hein, que ce soit le prix de la nourriture pour les traiteurs, au prix de l'énergie pour les gîtes qui sont loués. Loïc Tournaise gère un domaine dans le Beaujolais. Il est également président du syndicat des hébergeurs d'événements.
On arrive à des factures qui peuvent être exorbitantes, que ce soit sur l'électricité, le gaz ou même certains domaines au bois. Pour nous, c'est compliqué parce que les contrats sont signés un an, deux ans, voire trois ans à l'avance. On peut pas revenir sur un prix qui a déjà été signé. Et puis les mariés, enfin nos clients en tout cas, sont aussi soumis à cette même hausse, donc c'est compliqué pour tout le monde. Et bien aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on augmente les services, on fait preuve d'imagination, donc on propose des services complémentaires à la location du domaine, des petites restaurations, de location de mobilier, de services d'accueil X ou Y.
Travailler plus pour gagner autant qu'avant, en somme, d'autant que beaucoup d'entreprises doivent également rembourser les prêts garantis par l'État. Résultat, le secteur du mariage est encore fragile. L'année dernière, une entreprise sur trois se disait pessimiste sur son propre avenir. Cette année 2023 pourrait donc être l'année du rebond et de l'amour, hein, Mathieu, rien n'est perdu. La preuve, Jean-Baptiste, qu'on a entendu au début du reportage, trois ans après, il va se marier le 8 juillet dans le sud du Finistère, sans masque, enfin. Il va juste falloir qu'il repasse une commande de vin, car il a déjà bu celui de 2020.
Ah, eh bien dites-moi, j'en connais une qui connaît ce problème, hein, Peggy Broche.
Je ne sais pas de quoi vous parlez.
Martin Cadoret, enquête à retrouver en intégralité sur rmc.fr. 8h24.
RMC, la matinale week-end. Le 10 minutes chrono.
Allez, on embarque, Peggy.
Ah oui, parce que...
On vous embarque.
On vous embarque dans une croisière avec la croisière Le Boat. Et alors, qui va bénéficier de cette croisière?
Eh bien, c'est Didier. Bonjour Didier.
Bonjour Didier.
Bonjour.
Comment ça va?
Très bien.
Bon, réveillé depuis longtemps?
Oui, depuis 6 heures.
Et vous êtes chanceux ce matin, hein, parce que le tirage au sort est tombé sur vous. Vous avez joué avec nous. Oui. Et vous allez embarquer sur ce beau bateau, Didier.
À la croisière, Le Boat. Et vous allez pouvoir naviguer sur les canaux et rivières de France. Et c'est valable pour une semaine pour 4 personnes. Bravo, Didier.
Ben, je vous remercie. Je vous écoute tous les matins allant au travail. Et voilà, je suis un fidèle auditeur.
Eh bien, votre fidélité est récompensée, mon cher Didier. Bonne journée à vous, bon week-end.
Merci et bonne continuation à vous. Merci.
Et alors à demain, puisque nous sommes là aussi le dimanche, bien sûr 6h-9h, la matinale week-end. Salut Didier.
Le 10 minutes chrono sur RMC avec Le Boat. Le Boat, leader européen de la location de bateaux sans permis pour une expérience unique de vacances sur les canaux et rivières d'Europe.
Allez, de nouvelles accusations contre Noëlle Legrette. Après une agente de joueuse, l'ancienne directrice de la Fédé, c'est désormais la trésorière de la 3F qui l'accuse de comportement déplacé. Explication complète dans le journal de 8h30. RMC 8h30, l'info Stéphane Jeunesse, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à toutes et à tous.
À la une, la fin du procès en appel du féminicide de Julie Douib. Bruno Garcia, lourdement condamné.
L'ex-mari de Julie Douib, reconnu coupable de l'assassinat de son ex-compagne, il écope de la réclusion criminelle à perpétuité, comme en première instance. On vous retrouve, Marion Dubreuil, envoyé spécial de RMC à Ajaccio. Bonjour Marion.
Bonjour.
Marion, vous avez suivi ce procès, et après les verdicts, c'est bien le soulagement pour la famille qui prédominait.
Oui, les parents et le frère de Julie Douib ont quitté la salle d'audience enlacés, soulagés que la justice les ait entendus, notamment sur la dangerosité de Bruno Garcia. L'accusé, lui, a tremblé dans le box, mais il n'a pas dit un mot. Ce père a été déchu de son autorité parentale. La cour a estimé qu'il continuait de privilégier son intérêt à celui de ses deux fils de 12 et 14 ans. Jordan Douib respire enfin.
Il n'y a pas d'exemple qui a été fait. C'est juste ce qu'il mérite pour ce qu'il a fait à ma soeur.
Ça va nous donner une vraie bouffée d'oxygène à nous, aux petits, et d'être serein, juste recréer notre famille. Et plus que tout, ça redonne aux enfants leur droit de choisir. Ils n'auront plus rien à subir, en fait.
Les enfants n'auront plus, notamment, à lire les courriers d'un père qui a tué leur mère. Lucien et Violette Douib vont retrouver dès aujourd'hui leur petit-fils dont ils ont la garde. Désormais, ils n'auront plus à supporter la présence de l'assassin de leur fille dans le bureau du juge des enfants. Bruno Garcia, quant à lui, a 5 jours pour se pourvoir en cassation.
Marion Dubreuil, en direct d'Ajaccio pour RMC.
7 morts hier soir à Jérusalem-Est après une attaque dans une synagogue.
Nouvelle escalade de violence dans la région après un raid israélien. Hier matin, en Cisjordanie, et à Gaza qui a fait 9 morts. L'attentat d'hier soir qui a d'ailleurs été condamné par la France et par les États-Unis, Martin Cadoret.
Des corps dans les rues de Jérusalem recouverts par des couvertures de survie près de la synagogue où a attaqué ce Palestinien de 21 ans dans une partie de la ville sainte annexée par Israël. Kobi Shabtai est le chef de la police israélienne.
C'est l'une des attaques les plus dures de ces dernières années. Le terroriste a tiré sur quiconque venait sur son chemin. Il a ouvert le feu sur un groupe de policiers qui se trouvait à un carrefour. Ils ont répliqué et ont pu le neutraliser.
Sur les lieux, des dizaines d'Israéliens crient « mort aux Arabes » en accueillant le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Il s'est ensuite exprimé à la télévision.
J'ai convoqué les forces de sécurité pour évaluer la situation. Et nous avons décidé de plusieurs actions immédiates. Je demande aux gens de ne pas se faire justice eux-mêmes. Pour cela, nous avons une armée, une police et des forces de sécurité.
À une centaine de kilomètres dans la bande de Gaza, des scènes de liesse, des Palestiniens célèbrent cette attaque au lendemain d'un raid de l'armée israélienne ayant fait 9 morts. Azem Al-Ghassem est le porte-parole du Hamas.
L'opération de résistance à Jérusalem est une réponse aux crimes commis par l'occupation à Jenin et une réponse naturelle aux actions criminelles contre notre peuple partout.
La France exhorte Israël et les Palestiniens à s'abstenir d'alimenter l'escalade.
Par ailleurs, aux États-Unis, c'est l'émotion qui prédomine après la diffusion de la vidéo de l'arrestation mortelle d'un Afro-Américain début janvier. Le président Joe Biden se dit scandalisé et profondément meurtri par ces images.
8h33, Noël Le Graët, encore une fois accusé de comportement déplacé.
La parole qui se libère au sein de la Fédération Française de Foot et dans le journal L'Équipe ce matin, on apprend que Florence Ardouin, la directrice générale de la 3F, évoque des faits de harcèlement sexuel et moral, tout comme Aline Rira, la trésorière de la Fédé qui s'est confiée durant le dernier comité exécutif et qui accuse Noël Le Graët de gestes déplacés envers Corinne Diacre, Valentin Jamin.
Oui, devant les membres du COMEX, Aline Rira évoque des propos tenus le 7 janvier dernier. Je préférerais que vous me tendiez vos lèvres, dit Noël Le Graët à la sélectionneur Corinne Diacre, alors que cette dernière veut juste lui faire la bise. Le président en retrait aurait plusieurs fois, lors de réunions, utilisé des paroles lourdes, des mots déplacés, comme « mon amour » pour s'adresser à la coach des Bleus. Noël Le Graët, absent lors de la réunion, a été informé de ces révélations selon l'équipe et il aurait appelé Aline Rira pour lui reprocher cette sortie. Ces accusations s'ajoutent à celles de l'ex-directrice générale Florence Ardouin ces dernières heures et à celles de Sonia Swede, agent de joueuse. Le Graët toujours plus fragilisé, en attendant le rapport d'audit commandé par le ministère des Sports dévoilé ce lundi.
Allez les sports, côté terrain.
C'est le journal des sports.
Bonjour Stéphanie Roch.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
On démarre avec du rugby, la Fédération française dans la tourmente après la démission de son président Bernard Laporte.
Une situation pour le moins confuse, voire préoccupante à quelques mois du début de la Coupe du Monde organisée en France. Le comité directeur de la Fédération française de rugby a refusé de démissionner après le départ de Bernard Laporte. Une situation de blocage que dénonce Florian Grill, président de la Ligue Île-de-France et principal opposant.
Nous, on considère que c'est un hold-up et que c'est pas respectueux. La démocratie s'est exprimée, on parle beaucoup des valeurs du rugby. La première des valeurs du rugby, c'est de respecter la démocratie. Ils ont décidé de s'accrocher. Je regrette que la parole des clubs soit pas entendue et je regrette que le sens des responsabilités à un moment critique pour le rugby français, puisque on parle d'une Coupe du Monde sur notre territoire, tous les feux médiatiques sont braqués sur nous. Je regrette que les bonnes décisions ne soient pas prises.
Si la situation n'évolue pas, il faudra attendre le mois de juin pour organiser de nouvelles élections au sein de la FFR. D'ici là, un président intérimaire sera désigné.
Un exploit et un de plus des handballeurs français qualifiés pour la finale du mondial.
Les Bleus intraitables hier face à la Suède dans le chaudron de l'Arena de Stockholm. Victoire 31-26. Ils retrouveront le Danemark demain pour un remake de la dernière finale olympique. La France s'était imposée. De quoi rêver d'une 7e étoile mondiale, Arnaud Valadon.
Dans la salle hostile de Stockholm et ses 20 000 Suédois, la France a renversé une montagne, mais malgré la performance XXL, les joueurs avaient déjà basculé sur la finale pour Yann Islen.
Il y a eu une sensation bizarre à la fin du match, il n'y a pas eu d'explosion de joie non plus. On a passé un cap, mais on sait où on veut aller et on va tout faire pour réaliser le même match encore dimanche.
C'est seulement la deuxième finale pour les Bleus sur les 7 dernières compétitions internationales. Le capitaine Luka Karabatic rappelle que c'est toujours dur d'y parvenir.
Ça montre à quel point c'est difficile. Toutes ces équipes qu'on retrouve à chaque fois, qui sont de plus en plus fortes et nous, ouais, on a réussi à se remettre en question. Vous savez qu'on était encore là parmi les équipes favorites et jusqu'à présent on a montré, ça c'est bien.
Opposé au Danemark, double champion du monde en titre, la France ne veut qu'une chose, gagner le droit de coudre une 7e étoile sur le maillot.
Et puis, à 8h36, du tennis, avec les finales de l'Open d'Australie. Ça commence dès ce matin, 9h30.
Avec la finale dames qui va opposer la kazakhstanaise Elena Rybakina, 25e, à la biélorusse Arina Sabalenka, 5e joueuse mondiale. Alors bien sûr, elles n'ont pas l'aura médiatique d'une Serena Williams, forcément. Elles sont aussi beaucoup plus jeunes, mais elles ne sont pas là par hasard. Eric Salio, vous êtes notre envoyé spécial à Melbourne. Bonjour Eric. Que pouvez-vous nous dire sur ces deux joueuses ?
côté, c'est une finale pleine de contrastes entre deux filles de l'Est qui ne dégagent pas la même chose sur le court. Née à Moscou il y a 23 ans, Elena Rybakina, froide, déterminée, rêve d'apporter un deuxième titre au Kazakhstan, qui l'a recrutée en 2019, et sa victoire à Wimbledon face à 11 jabeurs lui apporte la sérénité. En face, Arina Zabalenka apparaît comme l'une des filles les plus extraverties du circuit. Ultra puissante, la Bélarusse va vivre sa première finale de Chelem et devra contrôler ses émotions. Elle mène 3-0 face à son adversaire, mais cet avantage psychologique risque de voler en éclats lorsqu'elle marchera dans le couloir qui mène à la Rod Laver Arena. On y voit défiler les noms et les visages de tous les vainqueurs. C'est vraiment très impressionnant. Et puis Arina Zabalenka a un petit défaut. Elle gère mal les grands moments, les grands rendez-vous. Elle a perdu face à Caroline Garcia en novembre dernier au Masters.
Caroline Garcia, qu'on retrouvera d'ailleurs dans quelques minutes sur notre antenne. Et Eric, vous suivrez cette finale dès 9h30 sur la Rod Laver Arena. Vous avez bien de la chance. Avant la finale homme qui, elle, se déroulera demain, Novak Djokovic affrontera Stefanos Tsitsipas pour aller, pourquoi pas, décrocher un nouveau titre, 22e peut-être titre du Grand Chelem. Il égaliserait le record détenu pour l'instant par Rafael Nadal.
Et d'ici là, en effet, restons sur notre lancée. Caroline Garcia, l'une de nos plus grandes championnes de France, numéro 4 mondial de tennis, numéro 1 française. Elle y croyait à l'Open d'Australie. Elle s'apprête désormais à disputer le tournoi de Lyon qui débute aujourd'hui, une semaine après sa défaite à Melbourne. Comment l'a-t-elle digéré? Comment aborde-t-elle ce nouveau tournoi? Caroline Garcia est notre invitée dans 2 minutes sur RMC.
RMC, la matinale week-end.
Tous engagés.
8h41, bienvenue sur RMC. Tous engagés, le grand entretien de la matinée et de la matinale week-end avec une personnalité, une actualité. On est ce matin avec l'une de nos plus grandes championnes, Caroline Garcia, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Quatrième joueuse mondiale de tennis, première française. Vous allez jouer à partir de lundi, là, le tournoi de Lyon, chez vous, à la maison. Oui. C'est le deuxième plus gros tournoi de tennis féminin après Roland-Garros. Vous l'abordez comment ?
Bah, je suis vraiment, vraiment contente et très. Ça me tient très à cœur de jouer en France. On n'a pas beaucoup cette opportunité. En plus, dans le tournoi, dans ma ville où j'ai grandi, où il y a ma famille qui peut venir, mes amis, etc., ça représente beaucoup pour moi. Et non, c'est vraiment quelque chose d'assez rare dans une carrière d'avoir cette opportunité-là. Donc, j'essaye de bien récupérer, on va dire, après l'Australian Open et bien préparer pour mon premier match.
Elles sont plus difficiles à aller chercher, ces coupes en France, en particulier dans sa propre ville, avec dans le public le regard des proches.
Ouais, je pense que c'est une pression un petit peu différente, on va dire. C'est une pression différente. T'as cette envie de bien faire, d'aller chercher le titre pour toi, pour tous ceux qui t'ont soutenu depuis le début, pour le public français, etc. Donc déjà qu'il y a souvent pas mal d'attentes, tu te mets en plus un petit peu d'attentes en plus sur les épaules. Donc voilà, mais c'est un bon challenge à aller relever. Après, je suis pas la seule à vouloir aller au bout du tournoi et gagner le titre, mais en tout cas, je vais tout faire pour et me battre jusqu'au bout. Et je suis que le soutien du public m'aidera beaucoup.
D'autant qu'il y a un beau plateau hein, dans ce tournoi.
Oui,
très
beau.
Ce serait un rêve de gosse de gagner à la maison ?
Ça serait un des rêves, on va dire. Ça serait un des rêves de remporter ce tournoi à Lyon. Il y en a de nombreux, mais ça ferait partie des choses assez importantes de ma carrière. Ouais.
Bon, j'ai l'impression que ça va, à votre voix, en tout cas, Caroline Garcia, vous disiez, on est... tout pile une semaine, c'était lundi, dans la nuit de dimanche à lundi pour nous, huitième de finale à Melbourne, l'Open d'Australie. On avait suivi d'ailleurs votre parcours tout au long du week-end dernier dans la matinale week-end. En plus, on y croyait avec l'élimination de la numéro 1, Swiatek. On se disait qu'il y avait un boulevard. Qu'est-ce qui s'est passé lors de ces huitièmes?
Ouais, ça a été difficile à digérer, comme chaque élimination dans un tournoi du Grand Chelem, c'est des tournois qui comptent beaucoup pour nous joueurs. Donc voilà, ça a été, on va dire que ça a été un peu un tournoi difficile et compliqué. Ça, les matchs précédents, j'ai réussi à m'imposer, mais ça n'a pas été très propre ce que j'ai pu produire sur le court. Et sur ce huitième de finale, ça m'a coûté trop cher par rapport à la solidité de l'adversaire et mon manque un petit peu de calme, lucidité pour mettre mon jeu en place. Et c'est pas passé. Voilà, il faut essayer de retirer un petit peu des leçons de ce premier grand chelem de la saison. Accepter aussi que c'est le début de la saison et qu'il y a peut-être un temps d'adaptation, remettre le jeu en place, les automatismes. Voilà, c'est forcément une déception de perdre en huitième de finale, mais ça reste un huitième de finale, trois victoires précédentes. Donc voilà, essayer de garder le positif quand même en tête et travailler à partir de là pour aller plus haut.
À chaud, lundi, juste après le match, vous disiez finalement, ce qui m'a peut-être coûté, c'est mon statut de favorite. Vous redites la même chose une semaine après, à froid ?
Oui, je pense que c'est enfin un peu, ça dépend des mots qu'on peut utiliser, le statut, les attentes extérieures, l'attente de, que moi j'avais de moi-même par rapport à voilà aller chercher cet objectif. Peut-être que je me suis un peu trop omnibulée là-dessus et que c'était un peu trop dans ma tête et ça m'a pas permis de me libérer, de me vraiment concentrer sur le jeu. Donc voilà, il faut, comme je disais tout à l'heure, faut essayer d'apprendre un petit peu de cette expérience qui est voilà pas aussi positive que l'on aurait aimé, et puis voir qu'est-ce que je peux faire de mieux, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux avec l'équipe pour les prochains tournois et pour les prochains grands chelems de la saison.
Je disais que on vous avait suivi avec attention à Melbourne, ce sera le cas aussi à Lyon. La preuve, tiens, Florent nous appelle depuis Nantes. Bonjour Florent.
Bonjour Mathieu. Bonjour Caroline.
Bonjour.
Vous suivez le parcours de Caroline Garcia. Vous aviez une question à lui poser, Florent.
Oui, j'en avais deux. Bon, maintenant, en fait, est-ce que après la perte du premier set, ça a pas un peu tourné dans sa tête et la deuxième question, c'est pourquoi il n'y a pas de règle à contester en fait dans le tennis féminin, comme on a pu avoir avant avec Serena, Justine Henin, Kim Clijsters et j'en passe.
Alors pour la première, forcément la perte du premier set a un petit peu, ça m'a affecté forcément parce que j'avais eu beaucoup d'occasions, on va dire, de le terminer, etc. Et j'ai pas réussi à le prendre. Après, je me sentais bien physiquement pour me dire que bah je pouvais aller la chercher en 3 sets et que peut-être à un moment donné elle pouvait avoir de la tension parce qu'elle était jamais, elle a jamais été à ce niveau-là de la compétition. Que j'avais pas non plus joué un premier set incroyable et que au final je l'avais perdu que 7-6, donc ça me laissait une opportunité de continuer à progresser. Et pour la deuxième question, on va dire quand même que l'année dernière Swiatek, elle avait un statut et vraiment elle était vraiment numéro 1 au niveau du classement. Je pense qu'elle devait être 4000 points de plus que la numéro 2, ce qui est considérable en fait. Et après ça reste une jeune joueuse, elle a 21 ans. On a pu voir qu'il y a eu un peu un renouvellement de génération. Je pense que le fait que ça soit en 3-7 au lieu de 5-7, ça fait qu'il peut avoir plus de surprises. Et que certaines fois, les garçons en 5-7, ils ont un peu plus l'opportunité de se retourner et de revenir dans le match et les autres faiblir. Donc ça fait qu'il y a un peu moins de surprises. Mais après, voilà, on veut comparer le féminin avec le masculin alors qu'on a une génération assez incroyable dans le niveau de tennis masculin, quoi. Et Djokovic qui va se battre pour son 10e Open Australie, c'est considérable, quoi.
Alors justement, avant de revenir sur ces finales qui nous attendent, juste un mot pour compléter la question de Florent, Caroline, sur le classement français. Vous vous sentez pas un petit peu seule, Caroline, parce que vous êtes quatrième au niveau mondial. Alizé Cornet est bien après vous et parle désormais de retraite. Les jeunes ont du mal à s'imposer. Il n'y a pas des moments de solitude et de pression supplémentaire ?
Ouais, c'est vrai que bah dans le tennis féminin, on a eu des périodes, on va dire, plus fastes au niveau de la densité dans le classement mondial. Ouais, c'est vrai. Enfin, je peux pas trop l'expliquer, quoi. C'est pas mon rôle à moi. Moi, j'essaye de me concentrer sur ma carrière et chacun fait ses choix, chacun fait ses son chemin un petit peu. Et c'est vrai que il y a eu une belle génération chez les numéro 1, chez les juniors, pardon, avec Diane, Clara et Elsa Jacquemot. Et c'est vrai que peut-être que certaines ont mis un peu plus de temps pour vraiment passer le cap. Après, bah voilà, j'espère qu'elles vont finir par arriver et que on va pouvoir avoir une belle équipe de France.
Alors, l'Open d'Australie, on y revient. Première finale à 9h30. Rybakina Zabalenka. Vous allez regarder ou c'est trop dur? Parce qu'en plus, Zabalenka, vous l'aviez battue en finale de Masters en novembre dernier. Vous allez regarder ce match?
Je vais peut-être regarder un peu le début, mais après j'ai entraînement, donc je me concentre là-dessus. Mais après, généralement, c'est vrai que c'est assez, Enfin, j'ai notamment le tournoi féminin. Du coup, ça me fait vachement de mal de le regarder. Tu dis toujours que t'aurais pu faire des choses différentes, etc. Ouais. Et c'est là que t'as envie de te voir aussi. Donc, généralement, ouais, ça fait un peu de mal. Mais après, si c'est un beau match de tennis, ça me fait plaisir à voir. Mais ouais, je regarderai le score, etc. Et je pense que ça va être assez serré en tout cas.
Et demain, Djokovic, Tsitsipas, pareil, vous allez vous lever ou pas dimanche? Vous avez un favori?
Bah pareil, je m'entraîne à cette heure-là, mais bon, vu que c'est 5-7, j'aurai l'opportunité peut-être de voir après. Mais ouais, ça j'aimerais regarder. Bah ça me fait moins mal parce que je joue pas chez les hommes, mais puis ça peut vraiment être un match spectaculaire, je pense, et ça peut être vraiment intéressant à regarder. Ouais.
Encore un mot, Caroline Garcia, parce que on en parle en filigrane depuis le début, mais vous faites partie de ces athlètes qui ont osé parfois briser le tabou de la santé mentale, des difficultés à gérer la pression. De plus en plus de témoignages ces dernières semaines, les rugbymen par exemple qui préparent leur Coupe du Monde, qui parlent de burn-out chez les joueurs professionnels. Vous-même, vous avez parlé de quelques problèmes de boulimie pendant les tournois. Et j'ai cru comprendre que vous étiez étonné par l'écho que ça suscitait.
Ouais, c'est vrai que j'en ai eu parlé parce que en fait, on veut montrer aussi que c'est pas toujours facile. Évidemment, on n'est pas à plaindre par rapport à certaines personnes à travers le monde, etc. Mais il se passe beaucoup de choses en dehors de ce qui se passe sur le terrain et qu'on est assez vite jugé par rapport à nos performances. Et il y a beaucoup de choses à gérer. Et c'est vrai que voyager, être dans les chambres d'hôtel, seul, etc. C'est pas toujours facile. Et t'as envie de partager un petit peu ça. Ça s'est beaucoup dédramatisé de parler de ça. On est plus à l'aise. Et c'est vrai que je pensais pas que ça allait avoir autant d'impact et d'être pris dans autant de médias à l'international.
Il n'y a plus cette peur de dévoiler ses fêlures quand on est athlète de haut niveau. On commence à en parler même entre vous dans les vestiaires.
Non, en tout cas, moi, j'en ai pas trop parlé dans les vestiaires, etc. Mais je pense que c'est quand même, c'est plus ouvert par rapport à l'extérieur, etc. Et que t'acceptes plus de faire rentrer les gens un petit peu dans ton intimité par rapport à avant. Et avant, un petit peu, l'athlète, c'était l'image de la personne forte. Rien ne pouvait lui arriver par rapport à ton sport. Bah c'est un peu l'image que t'as envie de montrer aussi à ton adversaire pour lui montrer que t'es plus fort qu'elle. En dehors un petit peu, c'est vrai que tu pouvais des fois un petit peu t'inspirer du sportif pour te dire que bah voilà, il était courageux, il était combatif, que rien ne pouvait lui arriver. Malheureusement, c'est pas que ça.
Et on le voit à travers ces témoignages qui parlent à de très nombreux Français. Et on sent aussi toute l'utilité que cette parole peut avoir. Merci encore Caroline Garcia.
Avec plaisir.
On vous souhaite le meilleur pour ce tournoi de Lyon qui démarre donc pour vous lundi, Caroline Garcia, en direct ce matin sur RMC. 8h52.
RMC, la matinale week-end.
C'est tous les jours de manche.
Allez, on se détend avant de passer aux choses sérieuses et au débat du sport avec les GG du sport. Le meilleur d'Arnaud Demange, très inspiré par la crise ouverte au Parti Socialiste. Le congrès, c'est ce week-end à Marseille.
C'est compliqué l'élection de Mister PS. Hein. Ça semblait difficile de creuser plus bas qu'ils étaient. Ils ont quand même trouvé des pelles, dites donc. Et alors, ils ont fait 1,75 au présidentiel. Ils cherchent visiblement quelqu'un capable de faire encore moins bien. C'est pas mal parti. Alors, Olivier Faure contre Nicolas Meyer-Rossignol, bah, c'est Batman contre Superman. Hein, c'est Alien contre Predator. C'est les Charlots contre Dracula, c'est Shakira contre Piqué. On présente les deux stars. Olivier Faure, ancien directeur de cabinet de François Hollande et ancien coloc de Benoît Hamon. On a les lignes qu'on peut sur son CV. Et Nicolas Meyer-Rossignol, ingénieur chimiste et spécialiste de la biologie moléculaire. Moi, si j'avais été socialiste, je me serais dit... Un mec spécialisé dans les molécules et les toutes petites structures, c'est lui qu'il nous faut. Sauf qu'il est chimiste et maire de Rouen. Et à Rouen, les usines n'arrêtent pas d'exploser en ce moment. Faudrait peut-être lui confisquer son chlorure de phosphate à Nico, là, ou je sais pas quoi. Là, il est même parti pour faire exploser le PS. Il est énervé.
Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus. Je dynamite, je disperse, je ventile.
Alors, après un suspense haletant, vraiment haletant, moi j'étais passionné comme Apolline devant un épisode de sa série préférée, Petit secret entre voisins. Vous savez, la série avec des acteurs qui disent les acteurs qui sont face caméra et qui disent « Bon, là, quand même, Pierre commençait à m'inquiéter. Son attitude était très suspecte. » C'est un suspense de type typiquement socialiste. Donc, Olivier Faure se revendique vainqueur avec 50,83% des voix et déclare « C'est une victoire claire et nette. » 50% de 22 personnes, c'est pas retentissant non plus. Les effectifs socialistes sont désormais divisés en deux équipes. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Un foot, deux équipes de 11. Je réglerai ça sur le terrain, moi. Ça marcherait très bien.
Arnaud Demange, que l'on retrouve tous les jours sur RMC 8h20, 7h20, dans Apolline Matin du lundi au vendredi.